première partie de culte, pour ces belles images aussi qui accompagnaient les paroles. À elles seules, elles sont tout un message. Et puis, nous sommes déjà le 17 janvier. On ne s'est pas revus depuis l'année dernière. Mais il est encore temps de vous souhaiter alors quoi ? Bah, peut-être que l'année 2020 se termine mieux que ce que... 21 se termine mieux que ce que s'est terminé 2020. Ce qui serait quand même pas difficile. En tout cas, on peut souhaiter le meilleur. Et puis, comme il nous l'a été rappelé, eh bien, on peut regarder avec confiance aussi. Parce que Dieu nous aime. Et si nous ne comprenons pas tout, et s'il y a beaucoup d'épreuves et de choses qui nous interpellent, eh bien, on peut regarder à celui qui est la source aussi de notre espérance et de notre paix. Et c'est aussi dans cette veine-là que j'aimerais lire avec vous un texte que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 14. Voilà, à partir du verset 22 à 33. Donc, ce texte vient juste après la multiplication des pains. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne d'aller vers toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors, je ne sais pas, je laisse le texte là. Ou qu'est-ce qu'il y a après ? Non, mais alors, ça va, je laisse. On retrouve dans plusieurs évangiles ce récit où Jésus marche sur l'eau. Mais celui de Matthieu présente une particularité. Non seulement Jésus le fait, mais en plus, il permet à Pierre de marcher aussi sur la mer. Il y a donc là une double bonne nouvelle. Non seulement Jésus marche sur l'eau, mais il donne aussi ses pouvoirs à Pierre. Le chrétien, le croyant, n'est donc pas seulement face à un sauveur merveilleux, mais au Christ, Fils de Dieu, qui lui transmet ce pouvoir de vie. La clé de lecture de ce type de récit est bien connue. Nous savons que dans les Écritures, l'eau en grande quantité est signe de mal, d'épreuve, de mort. Mais en petite quantité, l'eau est signe de grâce, comme la source dans le désert ou la rosée qui descend comme une bénédiction. Mais la mer, c'est le déluge. C'est le lieu où se trouvent des monstres marins, où on y perd pied et où on risque de s'y noyer. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà permis de se sauver de la mer. C'est l'histoire de l'Exode. Le peuple hébreu, sous la direction de Moïse, fuit l'Égypte et Pharaon, furieux, se lance à sa poursuite. Mais arrivé à la mer, le peuple se dit qu'il ne pourra pas aller plus loin, qu'il ne peut pas traverser. L'obstacle est impossible à franchir et il pense qu'il va mourir. Mais Dieu permet à Moïse d'ouvrir la mer en la frappant avec son bâton. Et le peuple peut ainsi traverser à pied sec sans problème pour parvenir sur l'autre rive. Cette histoire est bien connue. Et pour en trouver le sens, nous comprenons assez facilement que cette expérience peut aussi être la nôtre. Car parfois, en effet, nous pouvons être face à des événements qui nous dépassent, qui nous semblent infranchissables et on pourrait dire intraversables. Je sais pas si c'est bien français. Nous nous disons que ce qui se profile devant nous est bien trop difficile, bien trop dur, voire impossible à traverser et qu'on va s'y perdre, qu'on va couler. Moïse montre qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, on peut y arriver et qu'on peut traverser ce qui nous semble insurmontable. Et en cela, il faut avoir confiance en Dieu, à qui tout est possible. Dans notre texte de l'Évangile, nous voyons qu'avec le Christ, de nouveau, Dieu permet de survivre et de traverser les obstacles, les épreuves et même la mort, sain et sauf. Mais le texte ici nous présente une situation toute différente. Il y a ce que l'on appelle, je dirais d'une manière un peu plus technique, un changement fondamental de paradigme, c'est-à-dire un changement fondamental de pensée, une profonde modification des valeurs, un changement complet de la vision du monde, de la façon de penser et donc de notre façon d'agir. Nous avons là une théologie toute différente. Ce qui est attendu de Dieu n'est plus du tout du même ordre. Certes, Dieu permet encore de traverser l'épreuve, mais il ne le fait plus de la même manière. Dans l'Ancien Testament, Dieu vient en aide à ses enfants en enlevant les obstacles de devant les croyants. On croyait alors en un Dieu qui pouvait intervenir sur les événements, les enlever et ainsi éviter les épreuves aux croyants en les préservant et en ôtant de devant eux les obstacles. Dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu n'intervient plus en priorité sur les événements eux-mêmes, mais il agit sur le croyant. Il n'écarte pas la mer, il ne la calme pas dans un premier temps, mais il va permettre à Pierre de marcher dessus sans s'enfoncer. Il n'y a donc pas là la promesse d'un Dieu qui nous éviterait toute difficulté, mais il y a la promesse qu'avec son aide, le chrétien pourra toujours traverser tout ce qui lui est demandé d'affronter. Et c'est là une véritable révolution théologique. Et non seulement Dieu peut aider, mais il peut même Oui, il peut même transformer le mal en bien. Il peut transformer les difficultés en chance. Et c'est ce que dit joliment un théologien contemporain, Eugène Drewermann, qui dans ses commentaires dit « Dieu fait que pour Pierre, ce qui le menaçait de le tuer devient ce qui le porte. » C'est bien dit. Dieu fait que pour Pierre, ce qui le menaçait de le tuer devient ce qui le porte. Dieu ne fait donc pas que aider à supporter la difficulté, l'épreuve, mais il peut aussi transformer le mal en bien. Tout ce que nous avons subi, ce que nous subissons ou ce que nous subirons, peut, avec l'aide de Dieu, devenir une chance, peut devenir des atouts pour avancer encore mieux dans la vie. Et l'exemple ultime de cela que nous trouvons dans les évangiles, c'est bien sûr la croix, outil d'horreur, outil de torture, d'opprobre, symbole de mort, et qui deviendra pour des millions et des millions de chrétiens une puissance de la vie, de la résurrection, de l'espérance. C'est là un miracle incroyable de ce qui est possible avec Dieu, avec la force de la prière et de la foi. Mais notre question, bien évidemment, et c'est la question que nous devons aujourd'hui tout le temps nous poser, comment est-il possible pour nous, pour moi, de marcher au-dessus de la mer menaçante? Pour y répondre, notre texte ce matin nous en montre le processus. J'en relèverai trois. D'abord, Pierre pourra le faire parce que Jésus a marché avant lui sur l'eau. Il a montré l'exemple. Il ouvre ainsi la voie. Et il est vrai que Jésus nous montre une vie qui a transcendé la mort, l'épreuve, l'injustice, la trahison, la solitude, l'absence de famille ou d'amis. Il a même connu la difficulté d'être dans un pays occupé par l'ennemi. Jésus, lui, a marché sur tout cela. Non pas avec une image de mépris, mais il a pu surmonter tout cela. Et nous pouvons voir que sa vie, que nous regardons comme étant la plus grande, la plus belle, est à la base une vie privée de tout ce à quoi nous courons sans cesse. La vie de Jésus, c'est la vie de quelqu'un à qui est arrivé à peu près tout ce que nous pouvons redouter. Et cela peut nous donner confiance, car nous ne sommes pas les premiers à souffrir. La vie est possible. Jésus a ouvert la voie et la volonté de vivre avec l'aide de Dieu peut faire dans nos vies des merveilles. Jésus nous précède. Le deuxième élément, c'est qu'ensuite, Pierre dit « Qu'est-ce qui m'empêche de venir ?» Mais rien. Rien, dit Jésus. Viens. Voilà le secret. Il ne s'agit pas pour Pierre d'aller n'importe où, mais il peut marcher sur l'eau tant qu'il marche vers le Christ. Les yeux sur lui. Tant qu'il regarde à lui, alors il peut traverser avec une force incroyable miraculeuse, je peux dire, les pires des événements quand on va vers le Christ Jésus sans se préoccuper de soi-même et sans être dans la crainte. Paul dira « Le juste vivra par la foi ». Et c'est vrai. Surtout si l'on sait que dans la Bible, la foi n'est pas comme aujourd'hui souvent un vague sentiment religieux, mais la foi est une véritable certitude. C'est l'adhésion de tout son être à la vérité qu'est le Christ. La foi biblique qui sauve, c'est une visée, une conviction, c'est un idéal. C'est le Christ, Jésus, auquel on tient fermement. Avoir la foi, c'est regarder à lui, c'est avoir ce regard tendu vers son idéal, c'est marcher en avant sans crainte, avec confiance. Alors on peut, comme Pierre, traverser les océans, des ravins, des montagnes. Jésus dira « Tout est possible à celui qui croit ». Troisième élément, malheureusement, à un moment, Pierre, au lieu de continuer vers son but, se regarde à lui-même, autour de lui. Il s'arrête, il prend peur, et tout d'un coup, il s'enfonce. Alors, il y a là, bien sûr, une vérité évidente, c'est que dans la vie, quand on s'arrête, on s'enfonce. Ben, c'est un peu comme, surtout ici, quand on fait du ski nautique. Si on s'arrête, il ne faut pas s'arrêter, sinon on coule. Et bien souvent, dans notre vie chrétienne, la réalité des épreuves, la dureté de l'épreuve, ou même l'embrun des difficultés, vient nous heurter et embrumer notre regard de foi. Ce regard se tourne alors vers ce monde dans lequel nous sommes, et l'inquiétude, le doute nous submerge et nous nous enfonçons. Pour l'instant, oui, nous sommes dans le monde. Et le seul moyen de vivre dans ce monde, le seul moyen de ne pas s'y enfoncer, c'est de sans cesse venir et revenir encore à celui qui nous appelle à garder confiance en lui, en son amour, un amour qu'il a prouvé pour nous. Pierre, donc, a eu tort, bon, de s'arrêter. Il a eu tort de regarder à lui-même et aux circonstances, pourtant des circonstances bien réelles, des circonstances bien concrètes, bien dangereuses, mais qui lui ont fait perdre de vue une autre réalité, bien plus concrète encore, celle du Christ, qui aura pu dire « J'ai vaincu le monde ». Ainsi, il nous permet d'accéder à une autre bonne nouvelle, encore plus importante peut-être, et qui est là la deuxième partie de notre texte. Parce que certes, bon, facile à dire, qu'il faut avancer avec force, avec confiance, rester dans un engagement tendu vers le Christ, ne jamais douter, ne pas faiblir, alors en effet, nous serons victorieux, nous pourrons tout traverser. Oui, mais moi, parfois je doute. Moi, parfois je n'ai plus la force. Je n'ai même plus la volonté d'avancer. Je n'y arrive pas. Et parfois je m'arrête. J'ai peur. Parfois je suis las, fatigué, je manque de foi. Suis-je alors condamné à m'enfoncer et à mourir? Non. Non, car l'Évangile n'est pas une théologie volontariste. On n'est pas sauvé par les œuvres ou en nourrissant des pensées positives. C'est à la mode, ça, pour avoir des pensées positives. Même les grands magasins nous invitent à positiver. Alors certes, bien sûr, il est bien d'agir et de croire. Cela sauve la vie, mais ce n'est pas le seul moyen. On le voit là avec Pierre. Il s'enfonce. Il perd pied. Il prend peur. Et alors, il va faire ce qu'il y a de mieux à faire. Il crie. « Sauve-moi, Seigneur !» Il appelle Dieu. Il crie à Dieu sa détresse. Il prie. Et il a raison. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons notre propre vie, ni même des amis qui sont dans la barque. Mais c'est Dieu seul qui peut sauver la vie. Alors le Christ aussitôt s'approche, il lui tend la main, il prend celle de Pierre, il le relève. Quelle merveilleuse image de la puissance de Dieu, mais aussi de son amour. Parce qu'il le sauve sans mérite, et il nous sauve sans mérite non plus. Il le relève. Il lui a simplement dit, « Seigneur, sauve-moi. » C'est une prière de désespoir. Ce n'est pas une prière de foi. Il ne dit pas « je sais que ». Non, « sauve-moi ». Puisqu'après, Jésus lui fera d'ailleurs ce reproche « homme de peu de foi ». Ainsi, Jésus sauve Pierre, mais sans lui faire de leçon. Quand Pierre coule, quand il commence à s'enfoncer, il ne lui dit pas « allons Pierre ». Réagis, remue-toi un peu, ne te laisse pas aller, reprends-toi en main. Autant de paroles assassines dans ces moments-là. Non, Pierre crie à Jésus et il le sauve. Point. Ensuite, certes, il lui dira, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais il le lui dira après l'avoir sauvé. Il ne lui dit pas pour l'enfoncer davantage en lui faisant des reproches, mais pour l'aider à progresser et à tirer une leçon de cette expérience. Car si la grâce sauve, elle ne nous laisse pas non plus sur place, mais elle nous invite à continuer à marcher et à progresser. Et c'est alors que Jésus monte dans la barque avec eux. Et le vent tombe. Et ils arrivent alors à cette confession de foi parfaite, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » En fait, c'est là, et seulement là, qu'on est dans la foi idéale, dans l'attitude la plus juste. La première partie de notre histoire est intéressante. Elle nous dit des choses morales, assez justes sans doute, mais prétendre pouvoir parvenir par ses propres forces à tout surmonter pour atteindre la perfection du Christ, tout cela est condamné à l'échec. On ne peut pas y parvenir. Et y croire, c'est se condamner au découragement et finalement à se perdre. Dieu seul peut sauver. Et c'est quand on comprend cela qu'on peut parvenir à trouver la paix, pas celle que le monde propose, mais celle que Dieu donne et qui nous dépasse totalement. Et puis l'idéal de la relation au Christ n'est pas non plus dans cette démarche chaotique du début de l'histoire, cette démarche faite d'excès, de confiance, d'échec, de doute, de secours spectaculaire de Jésus. Non, l'idéal de la relation au Christ est juste dans une présence douce, harmonieuse, paisible, apaisante. Et l'idéal du chrétien, c'est de vivre continuellement avec lui, comme compagnon dans sa barque, sans désormais craindre ni la mer ni les tempêtes. Alors, quand on a comme cela un sauveur à son bord dans sa vie, on peut aller très loin sans craindre les vagues. Mais peut-être que c'est là le fait d'une foi mature. Les expériences premières décrites dans notre histoire ressemblent fort aux expériences des jeunes convertis dans lesquels on est passé aussi tous. Il y a quelque chose de bouillonnant, spectaculaire, d'héroïque même, d'admirable dans une foi totale. Mais la vraie foi ne se trouve pas là. La vraie foi ne se nourrit pas de spectaculaire ou de miraculeux en permanence. La foi profonde, elle se trouve dans ce que l'Éternel explique au prophète Élie. Elle n'est pas dans le tonnerre, ni dans les grands vents, ni dans des manifestations stupéfiantes, mais dans un souffle doux et subtil qui nous accompagne, qui nous protège et nous fait vivre. Alors pour terminer, je dirais révisons. Révisons. Je sais qu'il y a des profs dans cet auditoire, des enseignants. Quand on recommence ou quand ils recommencent une année ou après les vacances, il y a toujours un temps de révision. On reprend ce qu'on a, on savait déjà, mais pour bien l'asseoir, pour pouvoir continuer. Ça fait 2000 ans que l'on prêche sur les mêmes textes. J'ai rien dit d'extraordinaire ni de nouveau, mais peut-être une révision. Une révision en ce début d'année 2021. Et nous ne révisons pas tout seul, mais nous révisons par l'Esprit qui nous est donné. Le Seigneur a dit, je vous envoie un Esprit, l'Esprit Saint, qui nous est donné pour nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Alors révisons tout ce que le Seigneur déjà nous a enseigné depuis notre vie, mais depuis peut-être 2000 ans. Cela afin de pouvoir avancer pour 2021, dans sa présence rassurante et apaisante. Amen. Je vous invite.